France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 12 France.
Et ce qui nous plaît, nous, au-delà de l'infrastructure, c'est la géographie donc, qui est bien située, toujours de l'animation, des jeux hyper bien achalandés pour nous, donc les enfants sont hyper contents quand ils viennent ici. Bah, déjà on est à l'abri du temps, donc même si on est dans le nord, des fois les averses elles peuvent arriver vite, donc ça c'est déjà une première condition. Deuxième condition, c'est que c'est encadré, c'est plutôt sécurisé et le fait de pouvoir se poser, les regarder, boire un petit café en même temps, bah, ça nous repose aussi. Nous, c'était des cabanes dans les bois et terminé. Oui, après, c'est sûr que ce type d'infrastructure des années en arrière, des décennies en arrière, ça aurait été canon, bien sûr.
Lundi de Pâques, dans la banlieue de Lille. Ce jour-là, des averses viennent percer régulièrement le ciel, comme souvent dans le nord. Alors, comment occuper ces enfants, a fortiori quand il pleut, et où organiser la sacro-sainte chasse aux œufs de Pâques? C'est la question que beaucoup de parents se posent, et pour y répondre, certains entrepreneurs ont peut-être déniché la poule aux œufs d'or. Les parcs de loisirs couverts. Kids Palace, Royal Kids, Tortuga, Nikito, depuis quelques années, ces enseignes fleurissent dans les rues et zones commerciales aux abords des villes. On y vient en famille et pendant que les enfants finissent de s'exciter à l'escalade, au toboggan, au trampoline ou à l'hélicoptère à pédales, les parents profitent d'une pause dans un environnement sécure et convivial, disent-ils. Pourquoi ce nouveau marché? Que dit-il de l'évolution de nos usages? Quand les parents d'hier nous envoyaient dehors construire des cabanes jusqu'à ce que la nuit tombe, pourquoi les parents d'aujourd'hui laissent pousser leurs enfants à la lumière des néons des centres commerciaux? Mais l'un serait-il exclusif de l'autre? Qu'avons-nous fait de nos enfants? Sont-ils peu à peu en train de devenir des gosses d'intérieur, pétris d'écrans et sédentaires? Au sommaire de 12 France, de Lille à Niort, nos enfants du dedans, venez, je vous emmène. Bonjour Sylviane Giampino.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychanalyste, vice-présidente du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge. Au sein de ce conseil, vous présidez celui de l'enfance et de l'adolescence. Et à l'automne dernier, votre structure a remis un rapport qui s'appelle « Quelle place pour les enfants dans les espaces publics et la nature ?» Bienvenue à vous. Et à distance, Thierry Paco, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes philosophe, auteur de « Pays de l'enfance » aux éditions Terres Urbaines, ça a paru en 2022. Et vous travaillez justement sur ces questions. On entendait à l'instant ce papa qui nous dit « Bon, bah finalement, avant, on faisait des cabanes, mais ça aurait été super qu'on ait ces espaces d'intérieur. » Et puis, ça nous repose aussi. Thierry Paco, que s'est-il passé en quelques décennies?
Alors, il s'est passé beaucoup de choses, mais avant, je voudrais quand même dire à ce papa que les cabanes, ça intéresse toujours autant les enfants. Et j'ai participé encore l'an passé à un jury des plus belles cabanes réalisées par des enfants. Et je peux vous dire qu'il y avait énormément d'enfants et qui étaient ravis parce qu'ils pouvaient clouer, ils pouvaient scier, ils pouvaient fabriquer des choses entre eux. Et ça, c'était une dimension excessivement importante.
Donc, ça n'est pas fini des cabanes.
Non, ça n'est pas fini. Et même, il faut cabaner partout. Et alors, en ce qui concerne la grande tendance que vous avez repérée et que le rapport du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge a exposé en octobre dernier, c'est effectivement qu'à l'échelle planétaire, c'est ça qui est assez impressionnant, parce que c'est aussi valable en Chine qu'au Canada ou au Danemark, alors évidemment dans des proportions un peu moins, il y a, je crois, une montée en puissance de la crainte que les parents ont pour leurs enfants. Donc ce ne sont pas les enfants qui ont peur d'aller dehors, c'est les parents qui préfèrent les avoir sous leurs yeux pour les surveiller. Il y a même des parents espagnols, par exemple, qui font pucer leurs enfants afin de pouvoir les géolocaliser en permanence. on arrive à des choses absolument absurdes.
Ce qu'on peut avoir, évidemment aussi, je renvoie à Un Pied sur Terre, une émission bien connue de l'antenne de France Culture, où des parents racontaient comment ils donnaient, enfin, ils mettaient des AirTags à leurs enfants, donc des systèmes de géolocalisation, ou un système de géolocalisation à partager de manière perpétuelle avec leurs parents, et cela pousse d'ailleurs les parents, quand ils voient que le gamin s'arrête plus de 3 minutes, à les appeler. On est quoi, Thierry Pacaud, dans une civilisation du contrôle des enfants ?
Dans une civilisation du contrôle, mais aussi d'une phobie généralisée. Et ça, c'est les parents. C'est les parents qui ont peur. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de danger dans la ville, bien sûr, ou même dans les villages de nos campagnes, mais je crois que là, on a exagéré cette notion qui repose aussi sur le fait qu'on ne fait pas confiance aux enfants. Et donc ça, c'est un des maîtres mots c'est de notre émission d'aujourd'hui, c'est confiance. Et l'autre maître mot, c'est le jeu. Il faudrait que toute notre société, que tout le temps des enfants soit consacré au jeu. Et ça, on en est loin. Et donc, le fautif, si on veut en nommer un, c'est l'école. Mmh. Alors ça, c'est un point très important. Du reste, le rapport dont vous parliez l'évoque trop peu. Je crois que si on transformait profondément l'école en donnant confiance aux enfants, en favorisant l'interclasse, on aurait tout à fait une autre manière de vivre son enfance.
Ouais, mais on reviendra, Thierry Pacaud, dans la deuxième partie de cette émission sur l'école. Mais Sylviane Giampino, justement, dans ce rapport qui s'appelle « Quelle place pour les enfants dans les espaces publics et la nature ?», vous constatez dès le début, en fait, que nos enfants sont devenus des enfants d'intérieur. Alors, ce sont deux géographes néerlandais qui ont posé ce concept en 2006, Lia Karsten et Willem van Vliet. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a conduit à ce constat ?
On est arrivé à ce constat et donc à travailler sur ce thème de travail après avoir fait des travaux pendant 2 ans sur la santé mentale des enfants et des adolescents. Et face à la détérioration de l'état de santé mentale de nos enfants et de nos adolescents, et face au phénomène d'une augmentation très inquiétante de réponses médicamenteuses à ce mal-être des enfants, on en est arrivé, après avoir étudié plusieurs hypothèses, à nous rendre compte qu'il y avait quand même quelques basiques dans le maintien en santé des enfants et des adolescents, qui était le mouvement, l'air libre, le contact avec la nature, etc. Et nous avons voulu vérifier cette hypothèse un peu intuitive par des données officielles, des statistiques, etc., tout ce qui nourrit nos travaux. Et finalement, les constats sont pas seulement que les parents veulent protéger leurs enfants et qu'ils pensent qu'ils ne sont pas en danger à l'intérieur de la maison, ce qui sera à préciser, c'est pas du tout sûr,
bien sûr.
On pourra y revenir. Mais surtout, il y a quand même le fait que les adultes eux-mêmes sont dans des attitudes de repli sur l'espace intérieur domestique, pas l'espace intérieur psychologique, tout simplement parce que je crois quand même qu'il faut se rappeler qu'il y a eu des grands traumatismes, dont le Covid, mais aussi les attentats, mais aussi dans d'autres pays, d'autres catastrophes, qui font que l'espace extérieur a été surchargé d'angoisse et de dispositifs, de mesures, de protection, etc. Et par exemple, Thierry Pacaud évoquait le rôle de l'école, mais toutes les institutions qui soignent, s'occupent, éduquent les enfants, les ados, qui s'occupent aussi de leurs loisirs, sont des institutions qui les sortent de moins en moins. C'est-à-dire que même les espaces extérieurs, c'est-à-dire pour les enfants des crèches qui sortaient au marché.
On imagine même les centres aérés ne sont plus si aérés.
C'est ça.
Ouais.
Et les sorties scolaires ont subi de grands fléchissements. Donc les enfants, même lorsqu'il y a des espaces extérieurs prévus dans les institutions, restent à l'intérieur.
Alors justement, replongeons-nous à l'intérieur. Retour dans la banlieue de Lille, Tortuga et donc un espace de jeu dit indoor, comme cela s'appelle. Plus grand parc à jeux couvert des Hauts-de-France. Il est situé dans le village Between de Decathlon. On y accède à pied ou en transport en commun. Il y a ici un parking gratuit. Il y a également un espace pour les moins de 2 ans, quelque chose que l'on ne retrouve pas partout. Il y a des navettes spatiales volantes, des grandes tablées pour les parents et de la nourriture maison. Ce jour-là, c'est lundi de Pâques, c'est une grande chasse aux œufs et Lucas Roxo, chanceux, y a passé la journée.
Attention, s'il vous plaît, les enfants qui veulent faire la chasse aux œufs, rendez-vous au comptoir avec moi. Tous les enfants qui veulent chasser des œufs, on a des paquets de chocolat à gagner. Préparez-vous, 5, 4, 3, 2, 1, chasse aux œufs, c'est parti.
Sam et Martin.
T'as trouvé l'œuf d'or? T'es fier de toi?
T'as bien raison. Joué.
Vous avez couru?
C'était la bagarre. J'ai tout donné. J'espère qu'il y a un beau cadeau derrière.
C'est l'œuf d'or. Celui qui le trouvait, du coup, il gagnait 5 entrées et 10 jetons pour le parc. Eh, c'est pas beau ça?
C'est la réponse. L'œuf d'or a été trouvé. Félicitations aux gagnants. Et c'est la peine. On va la.
Alors du coup, moi c'est Jim, manager chez Tortuga Lille. C'est calme, la zone est calme, le parc il est canon même si on travaille dedans. Moi je peux faire venir ma fille aussi, eux c'est pareil, quand ils ont un peu de famille ils peuvent venir. C'est brut là, les enfants, donc soit on rigole avec eux, soit ils nous lâchent des trucs, on en rigole en tant qu'adultes. Les parents du moment, ils voient leurs enfants contents, ils sont contents. Donc du coup, trop facile. C'est trop simple.
On va jouer à chat.
Dites-moi, vous êtes sur la terrasse?
Ça va, ça passe.
Je vous suis.
L'espace où les parents s'installent. Vous avez la partie accueil juste ici. Et la partie snack, où on propose des cafés et des viennoiseries. Et où on distribue aussi nos repas du midi, qui sortent de la cuisine juste en face. Et là, on a la partie des petits, avec un espace baby gym. Où il y a des tout petits, petits. Et l'espace des plus grands derrière, la petite partie escalade qui est pour les enfants de 5 ans. Là, la partie bateau pirate avec un toboggan, un volcan sur lequel on peut grimper, on peut rebondir quand on descend. On a aussi une petite partie où on peut faire de la luge avec les petits. Là, vous avez la partie trampoline. Ça marche bien les trampolines. Puis l'après-midi, on met une surveillance. Du coup, il y a quelqu'un. Enfin, dès qu'il y a un petit peu de monde, on met quelqu'un qui les surveille et puis qui peut grimper avec eux et s'amuser avec eux.
Et donc là, c'est les règles, c'est ça?
Oui, les règles de la structure. Chaussettes sont obligatoires. On n'y va pas à chaussures, bien entendu, et on évite de manger dedans. Je pense que ça évolue. Enfin, il y a plus de personnes qui ouvrent ce genre de structure qu'avant. Les gens vont plus à l'intérieur qu'avant. Mais je pense qu'on fait plus nos courses en drive, on vit plus de moments en famille, on est plus sur des loisirs, on est plus à partir en vacances. Il y a plus de laser game, il y a plus de réalité virtuelle, il y a d'autres activités. On n'a plus la même manière de vivre. Parce que je pense qu'à notre époque, on faisait plus de jeux en famille, de jeux de société à l'intérieur, que maintenant les parents sont plus aussi travaillent beaucoup, et pour défouler les enfants c'est assez facile parce qu'on les met dans les jeux, on les surveille, mais on peut rester à table, donc on peut faire quelque chose d'autre en même temps. Les personnes aiment le fait que ça défoule les enfants sans être trop fatigués eux-mêmes aussi. Quand il y a des enfants de 3 à 8 ans, comme ça touche tout le monde, ça permet de venir avec une fratrie et qui se suivent et du coup qui passent aussi un moment entre eux. C'est un peu comme une immense cour de récréation, donc forcément ça fait énormément de bruit. On a de la chance d'avoir un Tortuga à Lille, mais en ayant un énorme parking qui est gratuit, je pense que ça joue forcément. En tout cas, effectivement, on essaye de que ce soit des prix assez abordables. Pour 12,90, on peut quand même passer toute la journée. On est ouvert de 10h à 20h, donc on propose aussi une amplitude horaire qui est assez sympa quand on a un tarif comme ça.
Ok, on fait à 3.
Non, pourquoi?
C'est le plus petit devant.
Bah, c'est moi la plus petite.
C'est la première fois que je viens ici. C'est un ami qui m'a conseillé de venir ici.
Et c'est plus pour eux, bah, pour qu'elles s'amusent, qu'elles s'éclatent, qu'elles se dépensent. Et comme aujourd'hui, en plus, il y avait la chasse à l'œuf, donc on s'est dit pourquoi pas venir, quoi. Je fais que surtout quand il y a un mauvais temps. Quand il y a le beau temps, je préfère aller en extérieur, mais quand il y a un mauvais temps, oui, c'est à refaire, oui. Les enfants, ils s'éclatent, elles se plaisent, c'est super.
Oh, bah, je pense que j'aurais bien aimé en étant enfant. Pour le coup, on vient ici peut-être une fois tous les 5-6 mois. Bon, on aime bien parce que ça lui fait faire un peu d'activité physique quand on n'est pas sûr de la météo dehors. Ça permet d'alterner avec le vélo, la marche. C'est un environnement clos où on est plutôt tranquille.
C'est pour notre petite fille de Carmen qui a 2 ans, bah, qui aura bientôt 2 ans. Et c'est vrai que ça est bien adapté pour les enfants en bas âge et ça la défoule bien. On la voit hyper épanouie, hyper contente de courir, monter et on retombe un peu en enfance du coup aussi. Des fois on se demande comment nos parents nous occupaient aussi parce qu'il ne faut pas se le cacher. Hein. On vient aussi pour la défouler, qu'elle fasse une bonne sieste et que ça change de la maison parce qu'on a l'impression qu'elle tourne en rond à la maison en fait. Là pour l'instant elle réclame pas parce qu'elle n'est pas encore au niveau mémoire mais elle commence à se souvenir des lieux et donc dans la voiture quand on lui a dit ah bah on va à Tortuga et là elle était hyper contente, elle s'est dit ah oui c'est vrai c'est toboggan, ça développe d'autres choses au niveau de la motricité donc c'est vrai qu'elle aime bien venir ici mais c'est aussi un plaisir pour nous.
Voilà, c'était Plongée dans Tortuga à Lille. Sylviane Giampino, je vous voyais lever les yeux au ciel. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce que vous venez d'entendre ?
Ben, je suis sensible au fait que les parents recherchent des endroits où ils peuvent se poser, où il y a des enfants qui peuvent faire des choses qui leur font plaisir. Ça semble reproduire de manière un peu artificielle des formes d'éducation des enfants très collectives.
Oui, parce qu'ils
sorte de vie de village.
On joue à chat, c'est la chasse aux œufs, ils se défoulent, c'est juste que c'est à l'intérieur. Donc on
ça reproduit quelque chose de la sécurisation d'un univers villageois ou de famille élargie où les enfants n'étaient pas sous la seule responsabilité de leur père et de leur mère. Il y a des délégations de responsabilités. Ce qui est dommage, c'est que on prive les enfants d'autre chose qui est tout à fait vitale. Pas seulement le mouvement, le jeu, ça bien sûr, c'est évident, mais on les prive d'être à l'air libre et donc au contact des éléments naturels. Les parfums, les températures, le chaud, le froid, le sec, l'humide. Et ce rapport à la nature, on est en train de s'apercevoir à quel point c'est un régulateur de santé. Non pas seulement d'équilibre psychologique et de bien-être, mais un régulateur de sommeil. On sait que les troubles du sommeil sont plus fréquents pour des enfants qui n'ont pas de fréquentation de l'extérieur. Un régulateur de rêverie, de capacité de concentration, d'intériorité, etc. Donc, on est dans des univers clos, surstimulants, soit par des activités là ludiques, ce qui est super déjà, mais aussi des environnements clos, surstimulants, notamment par les écrans. Mmh. Et donc, c'est bien ça qui me faisait lever les yeux au ciel.
Thierry Paco, qu'est-ce que vous avez lu de tout ce qu'on vient d'entendre? Qu'est-ce qui retient votre attention?
Ce qui retient mon attention, c'est ce phénomène que je trouve terrible, qui est celui de la marchandisation de tout, de nos sentiments, de nos sens, de nos réactions aux autres, et puis du jeu, et puis voilà. Donc nous sommes dans une société consumériste, ça je le savais depuis longtemps, et là j'ai l'impression qu'il y a du ludique, mais c'est pas du jeu. Et dans le rapport dont on parlait tout à l'heure, il est précisé que les enfants des pays d'Europe du Nord ont plus d'activités dehors en plein air que les enfants des pays du Sud, contrairement au climat.
Oui, c'est contre toute attente, on devrait plutôt avoir le contraire.
Mais non, parce que les écoles de forêt au Danemark, parce que les playgrounds en Allemagne, etc., c'est dehors, et parce que l'important, ben, c'est les bottes et puis l'imperméable. Donc, et c'est aussi un moyen de faire une expédition. C'est aussi une façon de jouer.
Si j'entends, voulez, mais Thierry Pacaud, est-ce qu'on peut blâmer ses parents qui nous disent ça les défoule? On est finalement, on les entend jouer à chat. Il y a la chasse aux œufs. On entend aussi ce besoin de sécurité dans des villes. Et vous avez travaillé sur ces questions d'urbanité. Ces villes aujourd'hui qu'on traverse, on les traverse pour aller d'un dedans à un autre dedans. Est-ce qu'on peut les blâmer, les parents? Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui renvoie à notre responsabilité collective dans la manière dont on a aussi produit la ville?
Oui, bien sûr, la ville est construite pour l'automobile, mais tout ce que disait Sylviane, Jean-Jean Pinault, j'y adhère pleinement, c'est effectivement, en privant les enfants d'aller jouer dehors, on les prive de pouvoir éprouver leurs cinq sens, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui va les accompagner toute leur vie. Du reste, le rapport montre très très bien que passer 4h30 par jour devant un écran a des répercussions à la fois sur le sommeil, à la fois sur...
Ce qui est une moyenne chez les enfants.
Nos systèmes cognitifs, etc. etc. Alors, les parents, ils sont très normés, ce qu'on a entendu. Et effectivement, je vais pas les blâmer. Moi aussi, il y avait des moments où j'avais pas envie de jouer parce que j'avais envie d'écrire ou de lire, etc. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'on n'a pas d'enfant.
Vous allez un peu loin, Thierry Pacaud. On peut aussi ne pas être esclave de ses enfants et se dire, ça raconte aussi la civilisation du loisir, une civilisation où en fait il faut occuper les enfants. Fut une époque, on se prenait pas la tête quand on était parents à les occuper. Tant pis si on s'ennuyait et on regardait pousser les fleurs et on s'amusait avec des lombriques. C'est aussi ça que ça raconte, c'est-à-dire que, et je reviens à ce que vous traitez comme question dans la fabrique de la ville telle qu'on la conçoit aujourd'hui, ce rapport en fait est aussi biaisé. Donc quand je dis on peut pas blâmer les parents, c'est qu'on n'a pas produit des espaces qui permettent de faire ça en toute sécurité peut-être.
Oui, effectivement. Alors, mais il y a des expérimentations, je pense au café Zoïde par exemple, qui permettent d'accueillir des enfants à l'intérieur de quelque chose où ils sont le plus autonome possible et le plus indépendant des parents. Et ça, c'est une bonne chose, je crois. Maintenant, notre rapport aux enfants, c'est notre rapport à l'enfance. Et ça, c'est quelque chose que les adultes n'ont pas encore intégré. Lorsque j'ai commencé à travailler sur les enfants dans la ville, il y a plus de 25 ans, je n'avais aucun travaux. Dans les universités, personne ne se préoccupait de ce sujet. Donc, on est en train de s'y intéresser et il serait temps.
Thierry Pacaud, ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est qu'on est sur un concept sur l'enfance aujourd'hui. On est dans quoi, des logiques en fait, de recherche qui sont plutôt récentes.
Ce n'est pas ça que je veux dire seulement. C'est simplement de dire que l'enfance n'est pas un âge, n'est pas un moment de notre histoire individuelle, de notre existence. L'enfance est un pays. Et c'est à partir de là où il nous faut être des explorateurs de ce pays de l'enfance. Et qui peut le mieux l'explorer que l'enfant lui-même? L'enfant s'auto-apprend. Et c'est pour ça que tout fait jeu. Il suffit de laisser les enfants sur le bord d'un trottoir. Vous allez voir tout de suite que le banc va se transformer en diligence ou en château fort, etc. Et nous, on est les parents qu'on vient d'écouter. Eux, ils veulent des jeux pédagogiques par classe d'âge. Alors ça, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça.
On a aussi donc mis des carcans, peut-être, c'est ce que j'entends dans ce que vous nous dites, Thierry Pacaud. Sylviane Giampino, je vous voyais réagir.
Effectivement, le travail qu'ont fait nos membres du Haut Conseil, c'est pas un travail qui veut expliquer aux parents comment il faut faire bien avec leurs enfants. C'est plutôt un travail qui essaie de montrer comment la puissance publique doit faciliter l'exercice de la parentalité et mettre les enfants et les ados dans des bonnes conditions pour se développer, s'épanouir, d'abord grandir sainement. Et puis je voudrais citer quand même quelques chiffres pour illustrer la manière dont évoluent les comportements. Parmi les déplacements domicile-école, qui sont une distance très généralement inférieure à 2 km, eh bien 60% des trajets se font en véhicule motorisé. Et 37,6% à pied et 2,4% à vélo. Il y a dans les aménagements de l'espace public, c'est une responsabilité de territoire et de loi et de règles. Bien sûr, il faut garantir la sécurité routière, mais quand même, quand il y a des conflits d'usage entre les différents types de populations de la voie publique, je vous cite un exemple d'un travail très approfondi qui a été fait par la métropole de Lyon, qui a souhaité penser l'aménagement des alentours, des abords des collèges. Vous savez que le bâti d'un groupe scolaire, parmi les contraintes, il y a qu'on ne doit pas voir de l'extérieur les enfants, ce qui veut dire que les enfants à l'intérieur des bâtiments ne voient pas l'extérieur ni la voie publique. Eh bien, ces conflits d'usage vont des besoins des pompiers d'accéder, etc., mais surtout des familles qui veulent pouvoir avoir des stops véhicules devant les collèges et les écoles pour pouvoir déposer les enfants en voiture le matin, etc., plutôt que d'organiser des mobilités douces, des mobilités collectives. Il y a des tas d'endroits où s'inventent, par exemple, des systèmes où plusieurs enfants qui habitent dans la même zone d'habitation.
Font un pédibus.
Voilà. Et vélobus, pédibus, etc., etc.
Donc ça veut bien dire que tout ceci est aussi une question de politique publique de mobilité, de comment on construit l'école, de comment on sécurise en fait ses parcours, de comment on construit la ville quand on est avec des parents qui sont dans des lotissements assez éloignés des établissements scolaires. Cela veut dire mobilité par la voiture. Donc en fait, c'est la ville telle qu'on la perçoit et telle qu'on la construit qui a conduit aussi en partie à cette réalité.
Mais bien sûr, et là je n'irai pas sur les domaines qui sont travaillés par Thierry Pacot, je vais rester sur ce que nous on a mis en évidence parmi les recommandations. Il y a quand même l'idée de repenser d'une part l'habitat, par exemple, les habitats les plus détériorés, parce que finalement le dehors des enfants, c'est le dehors aux alentours de la maison, aux alentours de l'école et aux alentours des loisirs qu'ils peuvent trouver.
C'est pas forcément la nature, c'est le dehors.
C'est le dehors. Déjà, faire de ce dehors qu'il soit le plus vert possible, plus sain, etc. Faire de ce dehors qu'il soit le plus silencieux possible. On a maintenant des travaux qui montrent les dégâts du bruit, les pollutions sonores occasionnent des impacts sur la santé probablement supérieurs aux dégâts de la pollution de l'air. Et on n'en prend pas soin de cela. Tout à l'heure, dans votre reportage, on entendait le climat sonore dans lequel les enfants vont se distraire. Ça n'est pas porteur de rêverie, ça n'est pas porteur de créativité, de relation avec l'autre, etc. Et construire un espace public accueillant pour les enfants, c'est aussi construire un espace public plus clément pour les personnes fragiles, les personnes âgées. C'est la possibilité de sortir avec une poussette, c'est la possibilité, vous voyez. Donc l'inclusion du dehors, c'est aussi un projet de société.
Mmh. Thierry Pacot, qu'est-ce qu'on entend finalement par ce dehors? Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, ces enfants des villes sont aussi comme les enfants, pardon pour l'expression, des champs? C'est quelque chose qu'on retrouve absolument partout. Donc ce n'est pas seulement lié à l'urbanité, c'est plus large encore?
Oui, c'est ce qu'on peut appeler la civilisation urbaine dans laquelle on se trouve, où effectivement, un enfant d'un petit village, eh bien, s'il regarde les espaces verts qui l'environnent, c'est des chasses gardées, c'est des terrains privés qui ne sont pas accessibles. Là, j'en ai beaucoup parlé avec les enseignants des classes dehors. Il y a un manque de territoires ouverts, libres d'accès, pour la promenade scolaire, pour adopter une forêt, pour faire du jardinage, etc., etc. Et donc, je crois qu'il y a là un enjeu qui est considérable, c'est l'importance du rapport à la nature. Alors, ça commence bien sûr par la végétalisation de nos rues, bon, que ce soit un village ou que ce soit une ville, ou un lotissement pavillonnaire ou un grand ensemble d'HLM, mais en même temps, c'est aussi peut-être modifier nos déplacements en privilégiant justement ce que j'ai appelé des farandoles vertes, c'est-à-dire qu'on réunirait parfois même artificiellement, par un dessin, par une couleur, on réunirait tous les espaces verts d'une ville. Et dans ces espaces verts-là, eh bien, les enfants pourraient circuler en toute tranquillité, et ce seraient des moments aussi et des parcours de jeu. Ça, je crois beaucoup en cette dimension du jeu, qui est la manière dont des enfants se découvrent. Dans les classes dehors, on a constaté que des enfants qui étaient apparemment rétifs à l'école, à sa discipline, au programme, etc., tout d'un coup, eh bien, parce qu'ils avaient, avec le grand-père qui était agriculteur ou qui avait un jardin ouvrier, tout d'un coup, ils avaient des choses à expliquer aux autres enfants qui, eux, très citadins, ignoraient. Comment distinguer un radis d'un chou-fleur? J'exagère évidemment, exprès. Bon. Et donc, là, on voit bien que le rapport à quelque chose qui n'est pas du domaine de la scolarité simple et dure, eh bien, permet une reconfiguration de la classe. Et ça, c'est des éléments très importants. Je l'avais aussi constaté, j'ai eu la chance de présider la rue aux enfants lors de sa première édition, il y a plus de 10 ans, et je m'étais aperçu à ce moment-là à quel point les enfants avaient une imagination incroyable dans le choix des jeux. Certes, les parents leur soufflaient à l'oreille quelques jeux, la course à sac, etc., mais eux-mêmes avaient des idées, et tout d'un coup, ils métamorphosaient leur rue pour en faire quelque chose qui était ce que j'ai appelé moi un terrain d'aventure. La notion d'espace public, j'ai beaucoup travaillé sur cette notion, je lui préfère la notion de lieux urbains.
Quelle différence vous faites?
Ben parce que ce n'est pas une question de privé ou public. Du reste, vous l'avez montré avec votre reportage, on va dans un centre de loisirs privé, mais on le considère comme un espace public, et même sécurisé, même si on le paye. Alors qu'un lieu urbain, c'est lorsque les paysagistes, les designers, les élus, les architectes, etc., réussissent à aménager un territoire, c'est-à-dire à le rendre aimable. Et Sylviane l'a très bien dit, une rue, une ville, un quartier qui est pour les enfants est pour tout le monde.
Oui.
Vous écoutez Douce France par Nora Amadi sur France Culture.
Alors, on le disait, avec nos enfants d'intérieur, l'idée de retravailler le contact avec l'extérieur, et notamment la nature, fait tranquillement son chemin. Depuis quelques années, l'idée de faire l'école dehors, et on en a parlé comme chez nos voisins du nord de l'Europe, perce dans le personnel éducatif, mais les freins sont encore nombreux. Christelle Ferjou est géographe spécialisée en aménagement du territoire. En 2001, devenue professeure des écoles, elle a été l'une des premières en France à expérimenter cette classe dehors. Aujourd'hui, elle est conseillère pédagogique départementale dans les Deux-Sèvres et assure de nombreuses formations sur ce sujet. On l'écoute au micro de nos confrères de TV5 Monde.
Enseigner dehors, enfin en tout cas les enfants qui pratiquent l'enseignement dehors sont en meilleure santé physique et mentale. Ça travaille également les compétences du 21e siècle, notamment l'esprit de créativité, l'esprit critique, mais aussi la communication et la collaboration entre les enfants. Ça va permettre également pour l'enfant de recréer un lien avec son environnement de proximité et donc de mieux le connaître, de mieux l'appréhender. On sait que ce contact, enfin cet accès à la nature, il est essentiel et vital pour un bon développement de l'enfant et pour permettre à l'enfant qu'il se sente à la fois heureux et vivant. Le jeu, on dit que le jeu, c'est l'activité la plus sérieuse de l'enfant. Et aujourd'hui, les enfants passent beaucoup plus de temps à l'intérieur, dans des espaces plus contraints. Et donc, ces espaces sont moins adaptés pour permettre un jeu sérieux et libre des enfants. Et donc, la nature, c'est une ressource pédagogique, finalement, qui propose un espace à la fois complexe et plein de surprises. Et c'est toutes ces surprises qui enthousiasme les enfants. On va développer d'autres façons d'apprendre. On va utiliser des bouts de bois, on va creuser dans la terre, on va laisser des traces autrement que sur une feuille avec un crayon. Et donc ça permet de développer une autre façon d'aborder et d'appréhender son environnement. Pour l'école élémentaire, on peut tout à fait faire des mathématiques dehors. Par exemple, alors je pense à des élèves de cycle 3 qui travaillent par exemple autour des triangles. Déjà, s'amuser à repérer dehors, dans notre environnement extérieur, toutes les formes de triangles que l'on peut trouver et pourquoi pas les mesurer. Alors on va là encore utiliser d'autres outils que la règle qui est utilisée en classe, mais pourquoi pas utiliser un bâton étalon ou une cordelette étalon qui vont en fait nous permettre de faire des mesures différemment. Les enseignants, au moment du retour à l'école après le déconfinement, ont expérimenté et exploré des manières de faire classe dehors. Alors c'est vraiment dans la culture des pays du Nord d'être dans cette recherche du bonheur dans la nature. Nous, on s'est petit à petit, dans les pays latins, éloignés de cet extérieur, alors que nous bénéficions d'un climat beaucoup plus agréable. Nous, avec tout ce qu'on a pu développer en matière de pédagogie innovante, on s'est plutôt centré, avec un lien aussi à la sécurité, on s'est centré sur les intérieurs. On a repensé les espaces d'apprentissage à l'intérieur des écoles. On repense les nouvelles écoles au niveau de l'architecture avec des normes de haute qualité environnementale, mais on en oublie ce contact nécessaire et essentiel au dehors.
Voilà, c'était Christelle Ferjou, conseillère pédagogique départementale dans les Deux-Sèvres, spécialiste de la classe dehors. Sylviane Giampino, ça fait partie des solutions possibles, recréer ce lien. On imagine effectivement que nos enfants ont peut-être du mal à tenir 6 heures par jour assis dans une classe à l'intérieur. On commence à voir des crèches de plein air où 80% du temps passé est justement à l'extérieur. Pourquoi, enfin, est-ce que ça commence véritablement à changer, et est-ce que véritablement on est prêt à ça?
Ça commence à changer, mais toutes les initiatives qu'on voit fleurir aujourd'hui ont été pensées il y a plus de 15 ans. Il y a un mouvement, la Belle Crèche par exemple, Écolo Crèche, c'est parti d'Écolo Crèche, etc., qui progressivement a réintroduit l'enjeu d'un rapport à un environnement sain à l'intérieur des services et des institutions et d'un rapport plus fluide entre l'intérieur et l'extérieur. Les résistances sont très fortes.
De la part des parents ou des institutions?
Les résistances sont des deux côtés. Mmh. Les parents... Vous parliez tout à l'heure de cet enjeu de recherche de sécurité des enfants et je soulignais le caractère illusoire de la sécurité parce qu'on est à l'intérieur. Mmh. Une classe polluée, les classes sont des milieux extrêmement pollués.
Et vous disiez également, alors je l'ai lu, pardon, Sylviane Giampino, de vous couper, les classes sont polluées, mais par ailleurs, les bactéries et les maladies se transmettent beaucoup plus chez des gamins qui sont enfermés à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Absolument, c'est pareil pour les crèches. Donc, ces démonstrations aujourd'hui, elles commencent à être reçues, entendues, et on est en plein changement quand même. Les parents, ils ont un petit peu peur au départ, et puis finalement, quand ils voient leurs enfants, quand eux-mêmes, les professionnels, sont fiers aussi de sortir les enfants, de faire la classe dehors, ils reviennent eux-mêmes dans leur école un peu transformée. Finalement, c'est le bénéfice qui apparaît grâce à l'expérience qu'on a bien voulu tenter.
Ouais.
Mais, il faut aider les professionnels et les familles par, j'insiste encore, sur des réglementations, sur une levée des réglementations.
Il y a trop de normes.
Il y a des normes sanitaires invasives qui freinent des initiatives les plus élémentaires. Et là, c'est vraiment des décisions qui doivent être prises, et notamment sur tout ce qui est normes de qualité des lieux d'accueil, de l'école, etc. Dans les contrôles de qualité des institutions, on doit introduire aujourd'hui des normes d'ouverture. Par exemple, dans les crèches, on a maintenant non seulement des jardins, mais on autorise, dans certaines crèches s'autorisent à permettre aux enfants de toucher la terre, de planter, de toucher
basique,
les végétaux, etc.
Oui,
c'est-à-dire que pour des choses basiques, il va falloir qu'on transforme des réglementations pour revenir à des choses absolument nécessaires.
Thierry Paco, au-delà de ce que vient de nous décrire aussi Sylviane Giampino, je reviens à un texte intitulé « Les risques de la rue » disponible en ligne, qui a été mis en ligne par le ministère de l'Intérieur, qui recommande aux parents d'éviter toute sortie non surveillée des enfants, comme une sorte d'institutionnalisation des peurs collectives. J'ouvre les guillemets. « Faites en sorte qu'il ne soit jamais seul. Faites-le accompagner par une personne de confiance. » Fermez les guillemets. Est-ce à dire que, au même titre que la classe dehors qui décolle, mais il y a encore des freins, il faut sortir de la peur comme politique publique?
Ben oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que l'ensemble de la société est une société qui a finalement valorisé la notion de risque. Et donc, faire n'importe quoi devient prendre un risque et on essaye de s'en protéger. Mais je reviens à ce qu'il a dit à l'instant Sylviane, parce que je partage tout à fait son point de vue. Les manières de faire ont plus de 15 ans. Toutes les pédagogies dites nouvelles qui sont centenaires, Montessori, Guedes, Dewey, Célestin Freinet, De Croly, etc., consacraient un temps très important aux classes promenades, aux classes enquêtes et à toutes les initiatives des enfants dehors. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose de très, très important qu'on a perdu parce que l'institution scolaire, pour ça je reviens sur l'école, l'institution scolaire est non seulement bardée de règlements discutables, mais en plus ne va pas dans le bon sens. Elle devrait être non pas une école élémentaire, mais une école élémentale, celle qui valorise la terre, l'air, l'eau et le feu, qui sont les éléments que les Grecs avaient si bien décrits. Ils sont contradictoires en eux-mêmes. L'eau vous désaltère, mais peut inonder votre champ, etc. Et donc, l'enfant qui manipule les quatre éléments dans un jardin, dans un parc, dans une forêt, eh bien, il fait sa première leçon de philosophie, si j'ose dire. Il découvre la dialectique des choses.
Mais ce que vous nous dites, Thierry Paco, c'est que finalement, l'éducation nationale, les institutions ne s'adaptent pas à l'enfant, et c'est à l'enfant de s'adapter à l'école et à une vision quoi, sclérosée. C'est ce que je comprends dans ce que vous nous dites.
Tout à fait. Et encore, on n'a pas introduit une dimension qu'il faut quand même mentionner. Si on parle des enfants, il faut distinguer petits garçons et petites filles.
Mmh. Oui, la question du genre se pose évidemment.
Mmh. Absolument.
Sylviane Giampino.
Oui, je voudrais revenir quand même sur ces peurs et cette obsession de la sécurité, et effectivement avec des consignes qui viennent des forces de l'ordre. Le constat que nous avons fait quand même, c'est que les atteintes volontaires aux biens et aux personnes, hein, les vols, les agressions, etc., touchent de façon très rare les adolescents, les enfants et les adolescents dans l'espace public, mais elles sont très médiatisées. Mmh. Et par contre, les chiffres des atteintes corporelles, des agressions, des violences en espace intrafamilial, elles, sont très nombreuses et répertorié. Et puis, je voudrais dire aussi que on manque de données centrées vraiment sur les enfants et les adolescents. Il y avait une enquête assez intéressante, l'enquête CVS, cadre de vie et sécurité, qui intégrait jusqu'en 2019 des enfants mineurs de 15 ans et plus, et des jeunes. Cette enquête a cessé d'être poursuivie, et elle est remplacée non pas par une enquête sur les agressions, mais une enquête sur le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire qu'à propos de l'insécurité, on a des statistiques de ressenti et on n'a pas, sur les enfants et les adolescents, au regard de cela, des statistiques sur les faits.
Oui.
Donc, il faut qu'on avance sur les recherches et sur les constats, mais cette angoisse de l'agression à l'extérieur, elle peut être temporisée. On peut améliorer la sécurité des enfants par un extérieur mieux habité et mieux pensé pour les enfants et les ados.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, finalement, l'extérieur se traverse et ne s'occupe plus, on l'habite plus de la même manière. Mais là-dessus, Thierry Paco, rapidement, on sait aussi, par exemple, que les familles populaires qui ont parfois tendance à laisser leurs enfants dehors parce que l'habitat ne permet pas forcément à tous les enfants de rester à l'intérieur. Je pense à cela parce que on sait bien à quel point la question de l'occupation de l'espace public, notamment par des jeunes garçons non blancs, souvent dans les espaces populaires, est centrale. Il y a une forme de stigmatisation. On a l'image aussi de ce morceau d'NTM qui chantait « Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse ». L'image de l'enfant qui traîne, c'est aussi quelque chose contre lequel il va falloir lutter, parce qu'en fait, cette image-là, elle est délétère dans l'idée de réoccuper l'espace public.
Oui, et puis je crois que là encore, les adultes sont méfiants par rapport à certains types d'enfants que vous avez tout à fait mentionnés, ceux des grands ensembles, ceux des cités, et donc du coup, on les regarde avec un peu une crainte, et tout ça évidemment est totalement faux, mais ça appartient à cette ambiance délétère qui est cultivée par certains, comme vous le savez. Donc je crois que les enfants devraient être beaucoup mieux intégrés à la société des adultes. Jane Jacobs, qui avait fait un très très grand livre en 1961 sur les espaces publics aux États-Unis, expliquait que rien n'est plus sûr qu'une rue qui a des boutiques, qui a des marchands des cas de saison, qui a des concierges, parce que finalement, tous ces adultes-là, sans forcément le faire consciemment, eh bien, sécuriser la rue pour permettre aux enfants, eux, de jouer sur ces trottoirs. Et dans la décision faite par la ville de Bâle de créer une ville à hauteur d'enfants en 2006, eh bien, il y avait cette idée aussi de coller un autocollant sur les boutiques qui voulaient être amis des enfants. Et là, on savait qu'un enfant, voyant ce autocollant à son niveau, à sa taille, voulait téléphoner à ses parents, voulait aller faire pipi, voulait manger quelque chose, rentrait dans cette boutique, et là, il était bien reçu.
Ouais, ce qui est très loin, effectivement, des restaurants qui ne veulent pas des enfants, par exemple, ceux qui ne sont pas kids-friendly. J'entends cette idée, en fait, de recréer une place du village, cette place du village dont vous parliez, finalement, Sylviane Giampino, tout à l'heure, et cette place qui est aujourd'hui représenté par ces centres commerciaux et ces zones commerciales, malheureusement. Thierry Paco, il est là l'enjeu, en fait, recréer ce lien où il faut un village, comme on le dit souvent, pour élever un enfant.
Ben, oui, parce que on parle de commerce de proximité. Moi, je préfère utiliser l'expression de commerce de familiarité. C'est-à-dire, c'est là où le boucher, la boulangère ou la bouchère reconnaît les enfants de ses clients et puis les salue. Je vois pas pourquoi ça disparaîtrait, ça. Ça existe, ces relations de complicité tout à fait amicales entre des commerçants et des enfants.
Bah, sauf quand on est effectivement dans des villes qui n'ont plus de commerce.
Alors voilà, la question, elle est là. Elle est là, effectivement. On peut pas, quand on habite un pavillon à 600 mètres du village, comme il n'y a pas de trottoir pour aller au village, on va pas dire à son fils ou à sa fille, va chercher une baguette. Non, on prend sa bagnole, et si on prend sa bagnole, on va pas à 600 mètres chercher une baguette, on laisse la boulangerie fermée, et on va à la supérette à 2 kilomètres. Donc, on voit bien que c'est toute une organisation territoriale qu'il faut changer.
« Au bout de la logique de la coupure avec l'extérieur, on trouve un cas extrême, l'enfermement volontaire chez soi. De nombreux jeunes, de jeunes hommes en particulier, sont concernés. Au Japon, où ce phénomène est massif depuis des années, on les appelle hikikomori. Bonsoir Antoine Dulster.
Bonsoir Nora, bonsoir à tous.
Dans votre chronique cette semaine, vous vous penchez sur ce cas du Japon à la France.
Oui Nora, vous l'avez dit, ce phénomène nous vient du Japon. C'est en tout cas là-bas qu'on recense ces très jeunes reclus volontaires dès les années 90. Ils se retranchent dans leur chambre avec un ordinateur ou une console de jeu, parfois dans des conditions d'hygiène extrêmement précaires. Autour d'eux, des familles, des parents, des proches complètement dépassés. Depuis la France, on observe ce phénomène et on s'en inquiète, comme ici dans un numéro d'Envoyé spécial en octobre 2003.
Au Japon, environ 1 million de jeunes se sont volontairement coupés du monde. Ils refusent de mettre un pied dehors. Ils ne voient personne. Certains n'ont pas quitté leur chambre depuis des années. Un phénomène qui touche surtout les garçons. Près d'un jeune homme sur 10 vit en ermite. Ce phénomène porte désormais un nom, le hikikomori. Littéralement, cela signifie se mettre en retrait de la société.
Et ce retrait volontaire de la société nous interroge donc. Et d'abord parce qu'il nous dit des excès d'un modèle économique et d'un rapport à la réussite qui sont aussi les nôtres. Les hikikomori auraient subi trop de pression, trop de stress, en particulier à l'école. Pour les comprendre, les médias donnent la parole ces années-là à des experts et notamment un psychiatre, Tamaki Saito, ici sur l'antenne de France Inter.
Autrefois, ce sont des élèves qui, par exemple, avaient été expulsés ou des élèves qui avaient arrêté l'école pour une raison X, qui se retrouvaient donc chez eux, qui n'avaient plus de lien social avec leurs camarades et qui petit à petit s'enfermaient. Aujourd'hui, ce sont plutôt des gens qui ont fini leurs études, qui ont commencé un travail, qui ne se sont pas bien sentis dans le monde du travail, qui arrêtent et s'enferment chez eux.
Alors, il faut attendre le début des années 2010 pour que la France se rende compte qu'elle est touchée à son tour. Le journal Le Monde fait état de cas français de hikikomori en juin 2012, très précisément. Certains d'entre eux acceptent de témoigner les années suivantes et même de prendre la plume, comme Andreas Saada, auteur d'un récit publié aux éditions Pygmalion, qui évoque ici sur France 2 l'angoisse que lui inspire le monde extérieur.
Physiquement, il y a des angoisses qui sont là. Il y a un vrai mal-être. J'ai même tout mon corps qui se raidit. J'ai des crispations, une boule à la gorge. Et dès que je passe la porte pour rentrer chez moi, tout de suite, ça retombe. J'ai toujours l'impression qu'il faut que je sois parfait pour éviter les jugements négatifs. Je sais que chez moi, il n'y a pas de compétition. Je suis en compétition chez moi avec personne. Je rentre en conflit avec personne. Je suis dans un cocon et il n'y a rien qui peut venir me menacer, en fait.
Compétition, performance, peur du rejet, des notions qui reviennent beaucoup dans les articles et les études sur l'origine du phénomène hikikomori au Japon comme en France. L'une des spécialistes du sujet dans notre pays, la psychiatre Marie-Jeanne Gage, allait plus loin sur antenne de France 2 en 2018.
Ils ont un point commun très important, c'est qu'ils n'acceptent pas le compromis de la société. Ce à quoi nous sommes quasiment tous contraints, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des obligations qu'on a, et eux ont besoin d'être tout le temps extrêmement vrais et authentiques.
Le monde extérieur serait donc pour tous ces jeunes le monde du compromis, si on suit ce raisonnement, avec ses imperfections, ses ratés, ses désillusions aussi, difficile de ne pas faire le lien avec les tendances dont vous avez parlé tout au long de cette émission. Alors Sylviane Giampino, est-ce que vous rejoignez ce parallèle qu'on pourrait faire, cette idée d'un monde extérieur qui serait synonyme de compromis pour ces jeunes hikikomori, mais aussi pour leurs parents dans certains cas?
La violence que représente le passage de l'intérieur vers l'extérieur quand on est fragile est liée à des tas de phénomènes sûrement profonds, mais quand même, c'est un vécu sur lequel on peut exercer une prévention. Et la meilleure des préventions, c'est de faire en sorte que les enfants apprennent la pratique du monde extérieur à l'intrafamilial, à la maison. Et ça s'apprend tout petit. Tout petit, à 2 ans, on croise des visages qu'on ne connaît pas. Les parents disent quelques mots à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Les enfants les voient. Et cet apprentissage se fait progressivement. Et on a effectivement ce qu'on appelle les enfants d'intérieur. Ce sont des enfants qui n'ont pas fait ces apprentissages. Et dans ces apprentissages de l'extérieur, du rapport à l'autre étranger, cet apprentissage participe de la formation, de la socialité, des socialités, donc le développement de la socialisation des enfants, et progressivement de la citoyenneté. Car finalement, la pratique de l'extérieur, qui est un monde, un univers partagé avec d'autres, différents de soi et étrangers, eh bien, c'est ça, le vivre ensemble et la citoyenneté. Et ça rassure les enfants.
Alors, Thierry Paco, ces reclus volontaires dont on parlait dans cette chronique évoquent souvent des pressions qui sont de toute nature, hein, pressions trop difficiles à gérer. Le monde du dehors, que vous évoquiez également à l'instant, Sylviane Giampino, comme source de stress, est-ce que c'est une partie du problème si on veut diriger de nouveau les jeunes vers l'extérieur ?
Ben, il faut, pour ce qui concerne la ville, de ne plus vouloir l'aménager, mais la ménager, c'est-à-dire prendre soin. Et dans ce cas-là, le dehors et le dedans sont d'une très grande porosité. L'enfant qui est anxieux, qui est inquiet, stressé, que vous avez si bien décrit, eh bien, il reprendra confiance en lui s'il arrive à dire à un moment donné « j'entre dehors et je vais aller prendre un bain d'extérieur ». Car c'est le meilleur médicament qu'on puisse connaître.
Pour terminer cette émission, vous disiez tout à l'heure, Thierry Paco, la nécessité de penser la ville à hauteur d'enfant. Vous disiez que Bâle était une ville amie des enfants. Je pense à la proposition de l'UNICEF qui pense qu'il faut donner le droit de vote aux élections locales dès 16 ans pour faire exister les jeunes et les enfants dans la ville. Est-ce que ça peut être une solution pour repenser nos villes, pour repenser ces espaces et ce lien à la citoyenneté que vous nous évoquiez tout à l'heure, Sylviane Giampino, à hauteur d'enfant? Est-ce que c'est la bonne solution ou ce ne sera pas suffisant, Thierry Paco?
Ce ne sera pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Moi, je serais plutôt pour aller à 12 ans, comme le suggérait Françoise Dolto.
Ouais.
Françoise Dolto disait ça, Yvan Illich aussi disait ça, 12 ans. Mais peu importe l'âge, à dire vrai, c'est faut que ça vienne des enfants eux-mêmes.
Donc ça veut dire qu'il faut les écouter? Il faut des espaces d'écoute.
Il faut les écouter, mais ça commence déjà à l'école et dans la famille.
Mmh. C'est ça l'enjeu.
C'est-à-dire que le père de famille qui dit tais-toi et mange, bon, c'est un mauvais père. Il faut que les enfants puissent divorcer de leurs parents.
Ouais, c'est pas encore prévu par la loi. Sylviane Giampino.
Moi, je peux témoigner du fait que notre Haut Conseil travaille avec 12 enfants, 6 filles, 6 garçons mineurs, qui participent à l'expertise, qui nous aident à réaliser des propositions d'amélioration des politiques qui les concernent, et que c'est très très utile. Et il faut absolument que dans les espaces de décision, comme par exemple les conseils municipaux, vous savez, on parle beaucoup des conseils municipaux d'enfants, mais c'est un peu comme les majorettes. Dans certaines villes, on les sort une fois par an.
Cette image.
Les enfants devraient, comme dans notre Haut Conseil, être présents aux délibérations.
Et co-construire.
Et co-construire et réfléchir avec les adultes. Mmh. Ils ont parfois des regards qui sont extrêmement pertinents. Et ça ne veut pas dire qu'on doit suivre parce que c'est une parole d'enfant. Elle a un statut comme celui des adultes et on ouvre la discussion et le débat. Et ça, c'est un enjeu qui est fondamental.
Ben écoutez, on finira là-dessus. Merci à vous, Thierry Paco, Sylviane Giampino. Thierry Paco, je rappelle votre livre « Pays de l'enfance » aux éditions Terre Urbaine. Et Sylviane Giampino, donc le rapport que vous avez rendu à l'automne dernier, « Quelle place pour les enfants dans les espaces publics et la nature ?» On le retrouve sur le site du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, c'est à lire absolument. Et ce que je retiens, c'est donc co-construire, écouter les enfants et leur permettre de se salir quoi qu'il arrive, de jouer dans la boue et d'attraper peut-être froid. C'est pas si grave. Merci en tout cas à toutes et tous. Merci à Antoine Dulster qui a préparé cette émission, à Margot Page qui l'a réalisée. À la technique, c'était Alex Dang. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et à l'envi sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Et nous, on se retrouve vendredi prochain, évidemment, sur France Culture.